Ben, comment ça va? Qu'est-ce que t'écoutes?
Salut Steph. Bon, moi ça va bien. Je viens de découvrir un morceau. Ah mais j'ai jamais entendu une ligne de basse pareille.
Ah ouais. Ouh là 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 là.
Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment?
Bah tiens, écoute ça. Il y a une section cuivre.
Ah là, c'est morceau d'anthologie, direct. Je crois qu'on arrive.
Oui, on dirait que c'est ici.
Salut les gars, bienvenue à la maison.
Bonjour David.
Hello David, comment ça va?
Salut Binge, salut Steph, ça va bien?
En tout cas, il y a du soleil, hein, ça c'est chouette.
Yes. Ouais.
On est bien, d'ailleurs on va faire l'interview dehors, mais avant ça on va regarder un petit peu, parce qu'il y a une belle collection de vinyles.
Ouais, bah, j'ai fait 4 petites catégories dans ma discothèque, il y a un grand rayon de jazz, parce que j'ai commencé mon apprentissage musical avec le jazz, et ça reste ma musique de cœur. Ensuite j'ai découvert... le jazz funk et puis la chanson française, parce que récemment j'ai rencontré des gens qui sont amoureux de la chanson française et je découvre cet univers qui est assez incroyable. Et puis j'ai le rayon classique, parce que pareil, c'est pas vraiment dans la culture familiale la musique classique, et puis j'aime découvrir les grands classiques, et puis je comprends pourquoi c'est devenu des classiques.
En tout cas, là, je viens de tomber sur un très bel album. Il s'appelle Wayne Shorter et c'est Native Dancer.
Bah ouais, c'est la croisée de deux mondes. La musique brésilienne, Milton Nascimento, Wayne Shorter. Enfin, voilà, ils sont au Panthéon. Ces gens-là, ils ont tellement amené de choses. Et dans plusieurs domaines, en plus, quand... C'est vrai que tout le monde là, Wayne Shorter, c'est devenu une icône, c'est vrai que depuis son décès, mais même avant. Moi je sais que c'est quelqu'un, quand il est décédé, ça m'a fait énormément de peine. Mais vraiment, c'est un truc, on s'est retrouvé, on s'est appelé à plein de copains, enfin en quelques heures ça a fait le... Et moi je me suis littéralement effondré, c'était très très fort. On s'est retrouvé à Paris, il y avait Flo, il y avait Olivier Zano, et on a passé une soirée incroyable. Et après, j'ai voulu écrire un morceau aussi pour Wayne Shorter, parce que c'est quelqu'un, en fait, il nous a suivis. Enfin, pour les gens, les musiciens de notre génération, on a appris la musique avec lui, et il était là. On n'a pas pu, nous, écouter les Coltrane, les Charlie Parker. Et par contre, Shorter, il était là, et puis son dernier quartet. Et voilà, Native Dancer, ben, moi qui suis un fan aussi de la musique brésilienne, cette rencontre avec Milton Nascimento, c'est un disque incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la musique de Pat Metheny, Pat Metheny Group notamment. Pat Metheny revendique vraiment cette filiation, et quand on écoute le traitement des voix, on est obligé de penser à Nascimento, et c'est vrai qu'il a amené un truc incroyable, incroyable. Enfin... S'il faut citer des chanteurs comme ça qui passent au-dessus de tout, Milton Nascimento en fait partie. Je crois que voilà, on a eu Edith Piaf, il y a quelques voix, mais c'est presque des anges.
Ouais. Il a une voix déjà hors du commun.
Hors du commun, et puis les mélodies, on se demande où il va chercher ça. Enfin, il a accès à quelque chose qu'on n'a pas.
Alors tu parlais tout à l'heure de la musique française, il y en a aussi. Je vois ici un album qui s'appelle Aux Armes, etc.
Bah oui, Gainsbourg.
Cultissime. Et puis une certaine Colette Magny, tiens, que je ne connais pas.
Alors ça, il y a 5 ans, je ne connaissais pas non plus. Et une amie, Lila Tamazit, m'interpelle et me dit « Ah David, j'aimerais monter un groupe... où on reprendrait du Colette Magny, voilà, j'ai pensé que tu serais le musicien pour faire ça. » Je dis bah, « Je veux bien, mais c'est quoi? C'est qui Colette Magny ?» Et j'ai écouté, et je vous jure les gars, j'ai eu l'impression qu'on m'avait c'est comme s'il y avait eu la lune tout le temps, mais que je l'avais jamais vue. Ce truc était là, mais je dis, mais pourquoi je ne connais pas Colette Mani? C'est incroyable.
Ah, le secret le mieux, ouais, le mieux gardé.
Voilà, c'est ça, c'est ce que je mets sur quand on me demande le secret le mieux gardé de la chanson française, parce que elle a une voix mais complètement incroyable. D'ailleurs, elle a commencé en chantant les chansons du répertoire jazz, tu vois, elle reprenait ça, comme elle était bilingue, elle chantait ça très bien. Et puis après, elle s'est mise à écrire ses textes, et c'est d'une force. Alors c'est très connoté. C'est un combat social. Elle est touchée par toutes les injustices, l'écologie, le féminisme. Mais ça date des années 50, 60.
Ouais, c'est ça. La pochette est tout à fait années 60.
Ouais, ouais.
L'album s'appelle Les Tuileries. Il est sorti en 1964. Et alors, je vois sur le label qu'il y a quand même pas mal de compositions de son cru aussi.
Ah, mais c'est que. Uh-huh. Elle a arrêté de faire des reprises de son premier album.
Oui, elle a repris du blues et du jazz beaucoup. Et d'ailleurs, elle était appelée, je crois qu'on l'a... On l'a surnommée la chanteuse de blues française.
Oui, la Ella Fitzgerald française, pour dire à quel niveau elle était. Et puis, elle a fait un tube, Mélocotone. Vraiment un tube. Les gens connaissaient ce truc-là.
Moi, je l'écoutais petit. Mes parents l'écoutaient. Mes frères le connaissent. Mais c'est le seul morceau qui est un peu passé à travers...
Voilà. Donc, elle a signé chez CBS, Polydor, je ne me rappelle plus, une grosse boîte. Et ils lui ont dit, ben voilà, il faut que tu composes des morceaux... comme Mélocotone, faut faire un disque en entier. Puis elle a dit, mais je vous emmerde, moi, vous n'allez pas me dire ce que je dois faire. Donc elle a claqué la porte de la major. Ensuite, elle est allée chez Chant du Monde, un label indépendant. Et puis après, elle a fait que ses compositions. Les musiciens derrière, c'est que des jazzmen, mais plutôt free jazz. Elle, elle composait, mais elle écrivait surtout. Puis elle s'accompagnait à la guitare, mais il n'y avait pas vraiment de forme. Enfin, c'est très, très hybride. C'est pas vendable du tout. C'est presque pas mélodique. Mais c'est, moi, en tant que musicien, parce que là, je dis, mais comment, moi, un musicien contemporain, j'ai pu passer à côté de Colette Mani.
Je précise que tu es batteur.
Et du coup, je découvre la chanson française et le poids des mots. Et ça m'interpelle parce que faire la musique, il faut donner un sens, en fait. Plus ça va, moi, quand je me retrouve sur l'instrument, c'est pourquoi. Voilà. Pourquoi je suis derrière l'instrument? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour les gens? Mais en tout cas, il faut que je le fasse pour quelque chose. C'est pas un job. Si c'est un job, à mon avis, c'est foutu. Mais la raison. Pourquoi on est là?
Ouais, puis la teneur essentielle de l'émission, finalement.
David, qu'est-ce que t'écoutes en ce moment?
En ce moment, j'écoute Gil Evans, un album qui s'appelle The Individualism of Gil Evans, parce que j'ai un projet avec mon trio, avec François Chenel et Yoni Zelnik, donc piano et contrebasse, un vieux trio qu'on a depuis une douzaine d'années, on a fait deux disques. Et comment on peut mélanger la musique savante écrite et le jazz, et de toute ma discographie. L'album qui mélange le mieux ces deux univers, c'est ce disque-là. Et j'ai proposé ce projet au Conservatoire d'Orléans pour faire jouer les élèves et les profs qui voulaient, pour amener le jazz dans cette maison et faire un lien. C'est pas facile parce que à chaque fois que je voyais une fusion entre le jazz et la musique classique, ça marchait pas, quoi. Donc... c'est peut-être prétentieux de ma part, mais j'ai essayé de faire quelque chose qui semblait marcher. Et on a fait notre premier concert samedi dernier autour de cette musique. Et je crois que c'était une belle réussite pour nous et pour les élèves et le conservatoire. Donc ça fait à peu près 2 ans que j'écoute en boucle ce disque.
Déjà, ça nous donne envie. The Individualism of Gil Evans. C'est un disque Verve qui est sorti en 1964. Et sur lequel il y a très peu de morceaux, parce que les morceaux sont relativement longs quand même. Et tu as choisi de partager quel morceau ?
Barbara Song, le premier.
The Barbara Song. On écoute.
On écoute.
Thank you.
c'est incroyable ce batteur. C'est qu'en même temps, c'est le batteur qui joue le plus de notes, je crois. Enfin, il est considéré comme le... C'est la fusion. Enfin, c'est toujours un bouillon de son. Mais en fait, c'est du son. C'est du son, c'est du groove, c'est de la magie. Quand on parlait de Nascimento tout à l'heure, espèce de truc qui vient du ciel où on comprend pas trop ce qui se passe. Ben Elvin Jones, pour moi, en tant que batteur, il a ce truc-là. C'est de la batterie, mais en même temps, c'est pas de la batterie, c'est du son. Et je peux imaginer l'émotion que ça devait être d'avoir Elvin Jones derrière quand on était soliste. C'est-à-dire que ça devait être merveilleux et il devait être inspirant à un point. En plus, il paraît que c'était un personnage, un être tellement charmant et bienveillant que quand on était sur scène avec lui, on avait envie de jouer. Mais c'est pas du silence, lui, c'est autre chose. Ah, c'est vraiment délicat, la musique, parce que c'est l'inverse. C'est bouillonnant, ça n'arrête pas de jouer. Elvin n'arrête pas de jouer. Mais c'est inspirant. Et les gens qui veulent jouer comme Elvin, à mon avis, souvent, ils se trompent parce que ils prennent que ce côté de musicien qui joue beaucoup, fort, et c'est tout l'inverse. Moi, j'ai vu Elvin sur scène, et en fait, il laisse beaucoup, beaucoup de silence. Il était toujours à l'écoute des solistes, et il y a des grands disques où Elvin ne joue que des ballets. Enfin voilà, c'est un des plus grands batteurs, et il m'inspire beaucoup, ce batteur, en tant que musicien, pas en tant que, évidemment en tant que batteur, mais je peux rien en faire. Je peux rien en faire de la manière dont il joue de la batterie, parce que c'est trop personnel, et si on veut faire du Elvin Jones, alors on est une pâle copie. Mais il y a ce batteur et Paul Mossian. Voilà, Paul Mossian, c'est presque l'inverse, c'est du minimalisme, mais c'est la même chose en fait. C'est du silence, c'est des sons, et ça m'inspire beaucoup.
Alors c'est toujours compliqué de commenter un des disques de Gil Evans, parce que son contributeur, à peu près une trentaine de musiciens par album. Il y a une pléthore de musiciens et pas des moindres en plus qui contribuent à ce disque, The Individualism of Gil Evans. Alors sur ce Barbara Song, qui n'est pas d'ailleurs...
Qui n'est pas composé par Gil Evans.
Non, c'est
pas composition
de Kurt Weill. Il a réarrangé un morceau de Kurt Weill.
Tout à fait.
Et Bertolt Brecht. Ouais.
Et Gil Evans, c'est l'arrangeur de Miles Davis, des grands disques de Miles Davis, des grands disques à orchestre qui ont commencé avec Birth of the Cool, Sketches of Spain, Porgy and Bess, j'en oublie un, messieurs, Miles Head. Voilà. Donc les grands disques de Miles Davis avec orchestre, agrandi, Gil Evans était l'arrangeur de Miles Davis.
Et ce disque-là arrive après
1964, oui, ça arrive après, oui.
Et alors, pour un batteur, il y a quand même une chose qui est importante, c'est aussi le bassiste, parce que les deux conjugués, ça forme ce qu'on appelle la rythmique, qui est un des backbones de l'ensemble. Et alors ici, sur ce morceau, Barbara Song, c'est Gary Peacock qui est à la basse. Il y en a plusieurs qui contribuent, y compris Ron Carter, qui contribue sur certains morceaux. Chacun a sa propre interaction avec le batteur.
Ouais, alors c'est une histoire de tempo, comment on envisage le tempo, le son. C'est une alchimie particulière, en fait. Est-ce que ça se complète? Est-ce que c'est... Ah, c'est des choses qui ne s'expliquent pas vraiment. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Enfin, j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré tout au long du début de ma vie musicale des bassistes et contrebassistes incroyables. J'ai commencé avec Yoni Zelnik, qui est devenu un des plus grands contrebassistes en France de jazz, et qui est un musicien très très exigeant. Et on était très complices pendant 10 ans. Donc on avait tous nos groupes ensemble. Donc voilà, j'ai eu cette chance. Et puis après, j'ai rencontré des gens comme Jean-Claude Kebaili, voilà le bassiste de Cotonette, voilà quelqu'un pareil, très très exigeant. Oliver De Gabriel, il y en a beaucoup, hein, je pourrais en citer plein d'autres. Mais un grand groupe, enfin pour moi un groupe qui a un grand son, c'est une rythmique d'abord qui sonne. il y a pas de contre-exemple quoi. Quand un groupe sonne, c'est que la rythmique sonne. Et quand je dis sonne, c'est pas forcément des virtuoses. Hein. C'est il y a quelque chose qui se passe derrière qui permet à la musique de vivre.
Alors sur ce morceau, The Barbara Song, on retrouve aussi un certain Wayne Shorter.
En fait, ce disque, c'est presque un concerto pour Wayne Shorter. En fait, c'est arrangé, mais le soliste principal, c'est Wayne Shorter. Ce Wayne Shorter qui a fait Native Dancer quelques années après, une décennie après, avec Nascimento, et qui était à l'époque dans le quintet de Miles avec Tony Williams, Herbie Hancock, qui a fait... le groupe de Wayne Shorter, pardon.
Weather Report.
Weather Report, merci.
Avec Zawinul. <Zawinul. rire>
Merci beaucoup.
Exact.
Donc Weather Report, enfin voilà, ce saxophoniste qui a marqué l'histoire du jazz.
Avec un certain Erto Moreira qui aussi sera contributeur.
Bah voilà, ils sont tous croisés à un moment. Une phrase d'un grand batteur que j'ai oublié le nom, qui dit « Je ne veux pas être le meilleur batteur du monde, je veux être le batteur du meilleur groupe du monde. » Et ça change toute la perspective musicale de l'instrumentiste. C'est qu'en fait, chaque instrument doit toujours penser comment on fait sonner le groupe. Et quand on a parlé de Wayne Shorter, c'est un soliste. Il est incroyable, on a l'impression que c'est lui aussi qui fait sonner le groupe. Il fait jouer la rythmique avec le silence. Miles, je pense que c'est l'école de Miles Davis. Il y a tellement de silence que la rythmique, elle est... Tout d'un coup, il leur dit, mais les gars, jouez vraiment. Qu'est-ce que vous avez à dire? On est en train de parler, allez-y, c'est à vous de dire quelque chose. Et souvent, on est pris au dépourvu parce que souvent, c'est du bavardage. Quand il y a un soliste qui fait son solo derrière, bon... Ça swing, c'est cool, ça groove, mais est-ce qu'il y a vraiment un dialogue? Si le soliste ne s'arrête pas de parler, il n'y a pas de dialogue en fait. Et Miles Davis était le plus grand, pour moi, un des plus grands solistes, et que il parle et il est en discussion avec sa rythmique grâce au silence. Parce que c'est trop facile de dire la rythmique, vous n'êtes pas interactif ou je ne sais pas trop quoi. Ben oui, mais si tu ne me laisses pas la place de te répondre, il faut être. Enfin, avoir un charisme incroyable pour couper la parole d'un grand soliste. Moi, je sais qu'en tant que batteur, j'attends qu'on me laisse de l'espace pour parler. Donc voilà, pour moi, Wayne Shorter, il a cette faculté qui vient de l'école de Miles Davis, le silence. On propose et on attend et on voit ce qui se passe. Et c'est super de rencontrer des musiciens qui sont dans cet esprit-là, quoi, le silence, là. La communication.
Alors on va passer sur le second qu'est-ce t'écoute. David, qu'est-ce que tu écouteras toujours? Quel est le morceau que t'emmènera sur une île déserte si un jour ça t'arrive? Si tu devais écouter qu'un morceau ou qu'un artiste?
J'emmène un disque. En fait, c'est Songs in the Key of Life de Stevie Wonder. Je peux pas choisir un morceau parce que c'est une. En fait, cet album c'est un best-of. Je me suis mis un peu à comprendre ce qu'était cet album. Je me suis dit, mais comment on peut faire un disque comme ça, 1976. Et en fait, je me suis aperçu que c'était une compilation de toutes les idées qu'il avait eues sur les disques précédents. Il ne faut pas croire que ce chef-d'œuvre est arrivé comme ça. Là. Stevie Wonder est un génie, mais... Pardon, il n'y a pas de mais. Stevie Wonder est un génie. Il a fait ce disque et voilà, il a fait ce disque grâce au disque précédent. Il s'est fait les dents sur les disques précédents et il a pris le meilleur des disques précédents pour faire ce chef-d'œuvre où pour moi, chaque morceau est une histoire. En fait, c'est une espèce de compile. C'est vraiment... on fait souvent la blague. Mon dernier disque, c'est... je vais l'appeler Best Of. Lui, il a sorti un disque Best Of, quoi. Mmh. Donc voilà, s'il y avait un disque, et je suis désolé de pas pouvoir choisir un morceau de ce disque parce que c'est que des chefs-d'œuvre.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'on va écouter alors?
Ouais, je voulais choisir les copains. Attends, laissez-moi deux secondes. Ok. Pastime Paradise.
Ben on écoute.
On l'écoute.
Of ignorance, so disgrace. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me?
C'est génial parce que tout le monde connaît ce morceau grâce à la reprise. C'est qui a fait le rappeur?
C'est Coolio.
Voilà.
Gangsta's Paradise.
C'est ça. Et donc. Et grâce à lui, les gens ne le savent pas. Je crois que personne ne sait vraiment qui est Stevie. Enfin,
alors explique-nous un peu en quoi est-ce que c'est un disque vraiment de référence.
Il y a tout ce que j'aime dans la musique là-dessus. Ça groove. Chaque morceau, c'est une histoire. En fait, c'est un de mes batteurs préférés, Stevie Wonder, pour être honnête.
D'accord, on avait oublié de le mentionner.
Ouais. Je crois que... si on me disait t'aimerais jouer comme qui, j'aimerais jouer comme Stevie Wonder. Je sais pas, il a un truc fascinant. Il joue de la batterie comme un musicien ou comme un pianiste, ou enfin il fait sonner l'instrument. Donc il joue de la batterie comme il aimerait qu'un batteur joue derrière lui, je crois. Tu vois, c'est un peu comme lui, il est, c'est un grand pianiste et un harmoniciste. Donc je crois qu'il a un idéal de batteur. Il se dit tiens, quand je joue de l'harmonica ou du piano ou autre chose, hein, parce qu'il joue à peu près tous les instruments, qu'est-ce que j'aime dans un batteur? Donc il joue de la batterie comme il aimerait que les batteurs jouent de la batterie quand ils font un instrument. Et moi, c'est ma préoccupation. Je me dis toujours comment je peux faire le mieux possible pour que le musicien qui soit autour de moi ait envie de jouer avec moi ou ait de l'espace pour raconter quelque chose. Alors, c'est pas aussi... C'est pas une obsession, hein. Quand je joue, je pense pas à ça, hein. Quand je joue, je pense à rien du tout, mais quand je travaille la batterie, je pense à ça. Et donc pour en revenir pendant à Stevie Wonder, ce disque, chaque morceau, c'est une pépite. C'est extrêmement produit, c'est à l'inverse de tout ce qui pour moi me fascine dans le jazz, c'est-à-dire la spontanéité, tout ça. Il emmène au bout tout ce qu'il a travaillé depuis qu'il est tout petit, parce que c'est un génie, qu'il a essayé sur ses disques précédents, et il emmène le truc au sommet, et voilà, disque magnifique. Et c'est pour ça que j'invite tous les jeunes musiciens d'aller écouter ce disque particulièrement, pas que celui-là, hein, c'est après la porte pour aller écouter de l'œuvre entière de Stevie Wonder, mais waouh, quel disque.
Bon, et alors tu sais que tu n'es pas venu ici comme ça.
C'est vous qui êtes venu.
De façon fortuite, devant les micros de Qu'est-ce t'écoute, sans répondre à la question.
Ultime. Je te la pose, David.
Dis-moi tout.
Si tu devais un jour croiser ton idole musicale, qui ce serait et qu'est-ce que tu aurais à lui dire, à lui demander?
Ah oui, elle m'a cassé la tête, cette question. Ça fait 2 jours que je suis dessus.
Ah bon?
Ouais, j'y arrive pas et je vais être honnête, j'ai pas de réponse, j'ai pas d'idole musicale. Je vous ai parlé de Stevie Wonder qui est pour moi un idéal, mais c'est pas une idole, c'est un idéal, c'est une voix. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas grand chose à lui demander, j'aurais envie de jouer avec lui et toutes mes idoles, j'ai envie de jouer avec elles, plutôt que de leur poser des questions, parce que...
Je suis certain qu'il y a quand même encore un Graal dans ta vie de musicien. C'est quoi ton Graal actuellement, David Georgelet?
Déjà, si j'avais un Graal, ce serait continuer à jouer, à faire de la scène. Être sur le moment, être focalisé sur la musique que je suis en train de jouer... Donc voilà, mon Graal, eh ben c'est de continuer et de continuer les belles rencontres.
David Georgelet, est-ce que tu voudrais partager avec nous un morceau, un riff, un passage de ce que tu fais habituellement à la batterie ou de ce que tu auras envie de faire pour nous et pour les gens qui nous écoutent?
Parce que, en fait, vous l'avez dit, on est en plein air là.
Là, on est en plein air. On peut pas être plus en plein air. C'est la première de Qu'est-ce t'écoute.
Bon, alors, je vais essayer un truc. Hein,
j'ai les épaules qui bougent.
Et comme c'est carnaval, je crois que ça tombe à pic. Merci beaucoup, David Georgelet.
C'était le bloco de la chapelle Saint-Esma.
Merci les copains.
Merci David. Voilà, Qu'est-ce t'écoute, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve mardi 8 avril pour un nouvel épisode. Ciao.
Ciao.